L'agresseur intérieur. Paris, 1979, école élémentaire, rue de Marseille. J'ai 5 ans, je veux jouer avec un groupe d'enfants dans la cour de récré. L'un d'eux, le chef de la bande, probablement me dévisage. Casse-toi, sale arabe. Quelques instants après, un petit garçon africain s'approche de moi et timidement me demande si je veux bien jouer avec lui. Ma réponse est immédiate. Casse-toi, sale noir. Il faut parfois peu de temps pour apprendre à internaliser les attitudes et les comportements de son agresseur. Si on regarde cela en dehors de tout jugement moral, ce comportement et cette attitude sont des stratégies plus ou moins efficaces d'adaptation et d'interaction avec un environnement violent que nous intégrons comme nous pouvons et reproduisons à notre manière. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer cela dans un précédent article intitulé « Faut-il tuer l'enfant intérieur ?» dans lequel je raconte comment une victime de violence intériorise la violence qu'elle a subie. Souvent, lorsqu'on accompagne en thérapie un adulte victime d'abus dans l'enfance, on est amené à travailler avec lui sur cette part blessée qu'on appelle enfant intérieur, négligeant parfois qu'à côté de cet enfant intérieur abusé coexiste aussi un parent intérieur abusif ou toute autre figure d'autorité que le client a internalisée. Et le client ne s'identifie pas seulement à son enfant intérieur victime de persécution. Il rejoue une pièce dans laquelle il est parfois simultanément et l'enfant maltraité et l'adulte maltraitant. Et dans cette interaction symbolique, le persécuteur n'est pas toujours celui qu'on croit. Il y a quelques années de ça, en Égypte, j'assistais à une conversation à propos de l'excision d'une de mes cousines, âgée de 12 ans. Son père y était défavorable. J'ai été choqué de découvrir que c'est sa mère, intraitable sur cette question, qui a finalement imposé l'excision. Je n'arrivais pas à comprendre qu'une victime d'une telle mutilation puisse imposer à sa fille cette pratique archaïque et patriarcale. Comment une femme peut-elle devenir la gardienne d'un système de domination qui l'asservit ? Si je regarde cette femme à travers mes filtres et mon histoire personnelle, je lui en veux pour ce qu'elle a fait subir à ma cousine. Comme j'en ai aussi voulu à ma mère d'avoir été le témoin silencieux de la violence de mon père et de ne pas s'être interposée pour me protéger quand j'étais enfant. J'en parle dans cet article. Il m'est encore difficile aujourd'hui d'admettre qu'à un niveau sociétal, cette tante maltraitante qui excise sa fille n'est pas entièrement responsable de sa violence personnelle. Elle est elle aussi la victime d'une société. On retrouve ici probablement les mêmes mécanismes d'internalisation de la violence que ceux que j'ai évoqués plus haut. Et c'est sans doute là où se situe l'enjeu le plus complexe de l'évolution de notre société, dans la prise en compte de mécanismes d'internalisation qui dépassent l'individu et ne limitent pas la notion de domination masculine à une distinction binaire entre les hommes et les femmes dans lesquelles les hommes seraient forcément de méchants dominateurs et les femmes de pauvres victimes. Je me demande encore qu'est-ce qui fait que les femmes sont victimes d'un système de domination où la très grande majorité des prédateurs et des agresseurs sont des hommes. À la différence des minorités opprimées et des immigrés qui subissent aussi des discriminations et des violences, les femmes ne sont pas minoritaires sur Terre. Lorsque nous avons eu notre deuxième enfant, ma femme, pendant une année, s'est mise à 80% de son temps de travail, pendant que moi, j'ai continué à travailler à mon film à 200%. À l'époque, j'avais cru que c'était un choix libre et consenti de notre part et que nous étions respectueux de l'équité dans notre couple. Puis je suis tombé sur un podcast qui analysait, chiffre à l'appui, comment dans la quasi-totalité des ménages, ce sont les femmes qui optent systématiquement pour un manque à gagner et une perte de salaire, tandis que les hommes continuent à travailler à plein temps. Et voilà comment statistiquement, au moment de la séparation, l'écrasante majorité des couples se retrouvaient avec des inégalités salariales, les hommes ayant souvent un compte en banque plus fourni que leurs épouses. Mais cet argent que l'homme a continué à gagner grâce au sacrifice de son épouse, ne devrait-il pas appartenir aux deux, être divisé? J'ai réellement pris conscience à quel point derrière cette illusion de démocratie à l'intérieur de notre couple se rejouaient des enjeux de domination sociale, politique et économique qui me dépassaient et qui concernait tout un système. Le cinéaste Riyad Sattouf explore cette question avec humour dans sa satire Jackie au royaume des filles, dans lequel des femmes au pouvoir dominent et asservissent des hommes, rejoignant le même mécanisme de domination en y inversant les rôles. Nous avons besoin d'éclaireuses et d'éclaireurs de conscience pour nous aider à mieux voir les travers de notre société et les endroits où, même inconsciemment, alors que nous croyons être justes et équitables, nous sommes agis par des mécanismes de domination et de violence. Et cela implique aussi, je crois, un travail individuel, que l'on soit homme ou femme, pour nous questionner, identifier comment nous avons internalisé les codes de la domination masculine et laisser s'immiscer en chacun de nous un agresseur intérieur. Nous portons en nous ces paradoxes, comme ces femmes qui se revendiquent féministes tout en idéalisant leur papa ou en étant sexuellement attirées par des mecs avec des attitudes de bad boys ou, comble de la misogynie, par des hommes galants et romantiques. Difficile pour nous de faire la distinction entre ce qui est naturel et culturel. Personnellement, quand je me sens attaqué dans ma masculinité par des féministes qui utilisent la même violence que celle qu'elles condamnent, sans se remettre en question, j'ai juste envie de les envoyer se faire foutre. Ah, zut, j'avais oublié que notre langage était aussi un reflet de ces rapports de domination. Nous vivons dans notre société occidentale une crise identitaire. Et c'est, je crois, une occasion inespérée de réfléchir ensemble à la manière dont nous voulons avancer et la faire évoluer, en apprenant à nous défaire de la violence que nous avons subie et que nous reproduisons. Mais est-ce une naïveté de ma part que de croire que notre société puisse évoluer, en particulier dans le rapport homme-femme, grâce à l'éducation, la connaissance de soi et la pédagogie, sans faire du féminisme un outil de marketing à la mode ou passer par des lois, des quotas et d'autres mesures de discrimination positive? Cela impliquerait déjà d'apprendre à nous défaire de nos agresseurs intérieurs. Et peut-être que cela n'est tout simplement pas possible, et que le seul moyen qu'il nous reste pour faire changer les mentalités soit la révolte, le combat et la violence.